Alors, écoutez, je vais développer une problématique autour de cette question de crise qui tient en somme à l'origine même d'ailleurs de ce secteur, puisque, vous le savez, ce secteur de recherche s'intitule « Crise école, terrain sensible ». Et il émergea ici dans l'histoire des sciences de l'éducation de Nanterre à partir des années 90 pour s'installer en 91-92. Et d'ailleurs, nous avions longuement réfléchi à comment le situer, comment l'appeler. Crise, marge, on cherchait quelque chose qui tienne un peu du à côté. De l'interstice, comme disent certains. Bon, ça m'amène à traiter cette question sur trois niveaux. Problématiser la crise, l'éducation comme terrain sensible. Alors, après l'introduction, discipline et indiscipline, je parlerai de sciences d'éducation et crise-analyse, parce que la crise, oui, comme on l'a vu, elle n'est pas d'aujourd'hui. Le terme, on s'en servait beaucoup avant 68 et après 68, et puis dans les cours que je faisais en doctorat, après 90, j'ai retrouvé des discussions autour de la crise chez Diderot et d'Alembert. Alors, sciences de l'éducation et crise-analyse. La crise comme situation témoin, au deuxième niveau, et troisièmement, une économie psychique de la précarité. Alors, problématiser la crise. C'est vrai qu'on va essayer aujourd'hui, plutôt que de tomber dans les travers de l'actualité, de rester sur le capital humain. Et je commencerai par une petite citation de Balzac. Que nous avions en tête, en début de semaine, j'étais à la clinique de la Borde avec les groupes de pédagogie institutionnelle et Jean Houry, et on parlait de ça. Dans les grandes crises, les cœurs se brisent ou se bronzent. Balzac, dans la maison du chat qui plotte. Alors, ce que j'avais envie de dire, c'est que les sciences de l'éducation sont nées dans la crise. Elles sont dans la crise. Elles sont une crise. C'est un peu un hommage que je veux leur rendre. Et je me souviens de leur création en 66-67, après les propositions de Mialaret, Château, Debesse, l'émergence des sciences de l'éducation ici à Nanterre, par Gilles Ferry, puis Fillou, Jean-Claude. Et c'est vrai que je me souviens très très bien des ruptures et de l'installation de cette transdiscipline, comme on l'appelait autrement, puisque la plupart des créateurs fuyaient les disciplines. J'étais moi-même en philo, j'ai fait ma philosophie, en psycho aussi, par la suite. Et puis, mais un peu comme les autres, c'est ce qui m'a fait les rejoindre, ça ne me suffisait pas, ça ne nous suffisait pas. Bon, c'est vrai que quand vous êtes dans une discipline, c'est comme les arts martiaux. Bon, bien sûr, il faut déjà être deuxième dan, mais une fois qu'on est deuxième dan, on peut toucher à d'autres choses. Alors, les sciences de l'éducation, elles sont en fait pas d'aujourd'hui, puisqu'on en parlait à la fin du 19e siècle, et que vous savez, tous les débats qui sont instaurés autour de la notion de pédagogie, depuis lors, de la première chaire de pédagogie, qui d'ailleurs, après Marion, est devenue une chaire tenue par Durkheim, d'ailleurs, qui avait tout un propos autour de ça. Et quand en 67 naissent les sciences de l'éducation, c'est vraiment autour de cette notion de crise systémique qu'il faut les comprendre. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené, là, je réfléchissais cet été dans les Vosges à ces petites choses-là, cette transdiscipline, cette disdiscipline. Je me demandais comment l'appeler, puis je croyais avoir inventé un terme, mais non, ça existe déjà. Je me disais que c'était une indiscipline. C'était une pratique indisciplinaire, les sciences de l'éducation. Et puis allant sur Internet, je me suis aperçu qu'il y avait les arts de l'indisciplinaire depuis longtemps déjà. Je me suis dit, bon, Alors, pourquoi pas? Mais c'est vrai que c'est dans cette dimension d'indiscipline qu'il faut nous entendre. En somme, une hérésie. Une hérésie par rapport à l'homo academicus que je revendique fortement. Alors à l'époque, bon, Mielhare, dans sa définition des sciences de l'éducation, revient là-dessus, mais je me souviens des grandes discussions avec Gilles Ferry en particulier sur quel est l'objet des sciences de l'éducation. Très difficile à définir, hein. C'est la situation éducative. À l'époque, on disait le fait éducatif. Il y a d'ailleurs eu un cours à Nanterre, un des premiers, que j'ai tenu pendant 12 ans à peu près, qui s'appelait le fait éducatif et ses approches. Alors, ça voulait dire quoi le fait éducatif et ses approches? Nous allions chercher des psychanalystes, des psychiatres, des sociologues, des économistes. À un moment, il y avait presque 18 disciplines différentes dans le champ qui était le nôtre, ici, à Nanterre. Avec une tendance plus marquée quand même en direction de la psychanalyse, puisque je crois que c'est ce qui fit l'identité des sciences de l'éducation nanterrienne, à la fois la psychanalyse et la psychosociologie, disons la psychologie sociale clinique. Alors, c'est vrai que je vois assez bien comment s'est construite la chose et pourquoi nous y sommes. Dans cette épistémologie des faits en situation, alors où à l'époque on discutait beaucoup, les approches spiralaires de Morin, qui parlait beaucoup de la crise déjà, dans les années 66, 68, 70, le multiréférentiel d'Ardoino, qui reste toujours d'actualité, vous voyez, cette volonté de toujours décloisonner. Jean Houry, dans la conclusion des groupes à Laborde mardi, insistait sur le décloisonnement mental, psychique. Parce qu'il n'y a pas à tortiller, comme dirait l'autre, mais y compris dans nos groupes à nous, institutionnalistes, vous laissez un groupe s'installer, mais ça y est, quoi. Il perd le sens de l'orientation, hein. Il se prend pour lui-même et il sort plus de ses répétitions. Alors le secteur crise, il est arrivé là-dessus. Le secteur crise, 91-92, il s'installe, 93, il prend effet. Et le secteur crise, c'est comme la crise, c'est un peu la bande de Möbius, hein. C'est-à-dire quand vous marchez, vous pouvez être en dessous, en dessous, vous ne vous rendez pas compte que vous avez la tête en bas. Le problème n'est pas là, puisque de toute façon, les dimensions restent les mêmes, bien que nous soyons en mouvement. Donc la crise, elle tient de cette dimension bien montrée dans la clinique de cette bande de Möbius, qui est un peu la dimension du psychisme. On passe du sain au malsain assez vite. Alors, la crise, moi, je l'entends de cette façon, comme un transducteur, je vais l'appeler comme ça, un transducteur au sens du convertisseur, quoi. Elle a cette puissance de conversion qui fait que, vous le savez bien, on est mis en danger, je vais y venir, et il faut faire quelque chose. Alors, les sciences d'éducation, moi, pour l'instant, je m'attache à dire qu'il s'agit des approches complémentaires des situations éducatives et qu'il s'agit d'une autre logique que la logique qu'on connaît de coutume. Induction, déduction, abduction, transduction. C'est vrai que le mouvement institutionnaliste a beaucoup été cherché du côté de Peirce, y compris certaines thèses ici ont été faites à partir de là. Et on est plus dans les logiques abductives. La crise, elle est dans les logiques abductives. Alors, on peut se servir de l'induction ou de la déduction, de temps en temps, comme ça, dans un atelier, dans un laboratoire. Mais globalement, pour reprendre l'expression de Jean Houry, il faut marcher en diagonale. Alors, science de l'éducation et crise-analyse. Première partie. En fait, il s'agit d'aller vers une économie politique et psychique de l'instabilité. Mais on le sait depuis longtemps. Mais alors, on a toujours tendance à croire que ça va se calmer. Peut-être que ça va plus se calmer. Et qu'on est obligé de recréer, réinstitutionnaliser, comme on dit nous, des lieux et des seuils de calme. C'est à nous de le faire. On ne va pas le faire pour nous. Alors la crise analyse, c'est pas récent, le terme date, vous le savez, de l'analyse institutionnelle d'Edgar Morin aussi, des années 60. La crise d'analyse, on l'évoquait tout le temps. Quand l'euro a commencé son tout premier cours au troisième étage du bâtiment C, là, d'analyse institutionnelle qui n'était pas encore tout à fait l'analyse institutionnelle, on était 10-12 dans le groupe. Il y avait Lefebvre qui faisait ses amphis où il y avait par contre là 1000 à 1200 personnes. Et de quoi parlait-on? Mais que de ça. De la crise. Et de précipiter la crise, ça c'était la théorie Lourau, puis surtout la passade, précipiter la crise pour développer les contradictions, faire éclater les contradictions, quoi. Parce que dans la crise, il n'y a plus de dialectique. C'est pratiquement taoïste, la crise. L'un et l'autre subsistent ensemble. C'est ça, peut-être, qui est intéressant. Donc la crise analyse dont on parlait, dont on parle toujours, c'est quelque chose qui nous permet d'approcher une clinique de l'éducation, en fait. Toujours ce fameux fait éducatif, comment l'approcher avec toujours les tentations qui reviennent, la psychopédagogie, trouver quelque chose qui va nous donner comme ça une raison, des raisons. Des raisons, gardons. Alors c'est vrai que dans les cours que j'avais eu plaisir de faire ici, j'étais remonté jusqu'à, mais vous le savez, je ne m'attarderai pas trop là-dessus, Thucydide. C'est vrai que la notion en crisis, krinomai, en grec, c'est vrai qu'on est dans la décision et le jugement au niveau du tribunal, mais on est aussi au niveau de la médecine et chez Hippocrate dans le moment décisif, dans ce que d'ailleurs les Grecs appelaient la métaptose. La métaptose, c'est ce changement brusque de symptômes ou de sièges, c'est ce moment où il y a quelque chose qui va changer, qui change, mais on ne sait pas quoi. Intéressant ce terme de métaptose, parce qu'on y est dans la métaptose. Sarkozy aussi, d'ailleurs, on l'a vu hier. Sauf qu'il essaye d'en faire, il ne peut pas faire autrement, hein. Le moteur même de son discours et de ce qu'il va nous présenter. Mais c'est vrai que quand on pousse un peu plus loin l'analyse, on va trouver dans l'étymologie la crisologie d'Edgar Morin. On a des dimensions médicales, économiques, politiques. Cette notion de crise a habité la littérature, y compris la littérature révolutionnaire. Il y a des pages impérissables de Marx, mais surtout de Lénine et de Mao Tse-Tung sur la crise. Dans le dictionnaire du marxisme, il y a une page et demie de Georges Labica sur la crise. Comme possibilité, bon, évidemment de la révolution, enlever le R, possibilité de l'évolution. La crise comme possibilité tout court. Et bon, de la crise révolutionnaire à la crise identitaire, on n'entend parler que de ça. Dernier numéro de Sciences Humaines, par exemple. Où il y a un article, entre autres, qui avait un abord très intéressant de liaison qu'on n'a pas encore appréhendé, par exemple, entre certains aspects de la toxicomanie et de la psychose. Bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui jouent là. J'étais avec un groupe de psychiatres il y a un an, et ils écrivent dans le numéro, là, près de Pau. Et c'est vrai que, par exemple, on n'a pas encore bien travaillé le lien cannabis-psychose. Alors, La question de la crise, elle se pose à travers tout ce que je suis en train de dire. Elle est surtout dans la défaillance du contenant, la crise. C'est pas vraiment un problème de contenu, c'est une défaillance de contenant. Elle tiendrait plutôt de ce que Jean Houry appelle la pathoplastie par rapport à la pathologie. On n'est pas encore dans la pathologie, on est dans la pathoplastie. C'est-à-dire, il y a une ambiance, hein, c'est l'achetimon, quoi. Il y a quelque chose qui tient plus, il y a quelque chose qui désespère, qui travaille. On verra très rapidement que, effectivement, pour moi, la crise, elle appelle la violence institutionnelle. Elle est avec la violence institutionnelle. C'est sa jumelle. Donc, pathoplastie plus que pathologie. J'ai là encore des notes d'époque. Ce n'est pas une réaction, la crise. Ce n'est pas un conflit, ce n'est pas un stress. Ce n'est pas une catastrophe. Elle peut l'induire. C'est plutôt, là je déborde, mais dans la ligne de ce qui vient d'être dit, c'est plutôt une non-réponse avec cette fameuse coexistence des contradictions. Et bon, tout le monde le sait, c'est écrit depuis toujours, plus le système est complexe, plus il y a crise. Tout le problème, c'est de savoir à quel moment on va être dans la métaptose et ses seuils de rupture. Alors, une thèse a été soutenue par un institutionnaliste, Patrice Ville, à Paris 8, il y a 12 ans, plus de 10-12 ans. Très intéressante, hein. Ils avaient envoyé des équipes pendant 5 ans dans les centrales nucléaires en France. Ils ont réussi à être appuyés par le ministère et par des groupes, et ils ont analysé l'ambiance, le travail, les relations qui se créaient dans les centrales nucléaires, au danger nucléaire en particulier. Et justement, il y a tout un passage sur la notion de crise, parce qu'il dit, la crise, il l'écrit avec un col. La crise avec un cas comme critique. La crise comme critique en acte. Et ce qu'on peut retirer de cette thèse et d'autres étymologies, c'est qu'il s'agit à la fois de juger, séparer, trancher. Et dans la racine gréco-latine, on va trouver surtout dans la racine grecque cette idée de séparer le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire, la crise, elle fait du tri, quoi. Interroger, questionner, résoudre. Alors ça m'avait amené à faire ce que j'appelle une sorte de... un blason, je dis ça comme ça. Un blason de la complexité. J'en avais fait un schéma dans les années 90 qui illustre assez bien ce qui pourrait aussi s'apparenter au double bind, au paradoxe, un analyseur complexe de la crise qui pourrait être traduit par quatre termes clés. Danger, décision. Ça, c'est dans les étymologies. Danger, décision. Mais vous avez, y compris dans certaines langues asiatiques, vous avez aussi choix et opportunité. Danger, décision, choix, opportunité. Vous voyez bien qu'on est dans une tension articulée entre la difficulté et le conflit. La crise, avec un cas, touche à l'essence du lien social, nous dit-on. Et c'est vrai que là, on voit bien que cette problématique de la faille, qu'on voit jouer dans toutes les institutions aujourd'hui, mais qui pour autant les achève pas vraiment. Certaines vont fermer, d'autres ouvrir, mais l'institution n'a jamais de fin. Donc on est entre des phénomènes de violence sociale, des phénomènes de violence institutionnelle, et la crise, bon, c'est vrai qu'en arrière-fond, on a cette question traumatique de la catastrophe, et donc c'est vrai qu'on voit bien que ça active davantage le rapport qu'on a tout à chacun à ses propres angoisses ou aux angoisses du social, du sociétal. D'autant plus que, nous le savons aujourd'hui, la crise n'est pas conjoncturelle, mais elle est structurelle. Conjoncturelle, ça veut dire qu'il y a des problèmes et qu'on peut les résoudre. Ça, on le voit sur le terrain quand on intervient dans les institutions. On a fait des centaines d'interventions. C'est vrai que intervenir, il faut toujours à peu près savoir où on se situe dans la dynamique que je suis en train d'indiquer. La conjoncture nous amène à repérer des problèmes, à les résoudre quand c'est possible. Mais là, structure en crise. Alors là, c'est vrai que c'est l'institution qui est le problème. Mais bon, on peut réinstitutionnaliser, faire autrement. Il y a une politique des seuils, sujet collectif, qui est tout à fait importante là-dedans. Donc c'est vrai que la crise est... Deuxième partie, c'est une situation témoin, en quelque sorte. Donc on a là des situations témoins qui se multiplient, y compris dramatiques. On voit aujourd'hui l'ensemble des appareils sociaux, des appareils d'État, qui sont touchés par les violences institutionnelles, par ce qu'on commence vraiment à remarquer, mais que des groupes de psychiatres travaillent depuis longtemps, en particulier à partir de la psychothérapie institutionnelle ou de certaines dimensions de la psychanalyse. C'est vrai que le suicide ou les dépressions participent directement de ce mécanisme de la crise. me souviens d'une discussion avec Pierre de Lyon il y a peut-être 15-18 ans. Et Jean Houry, d'ailleurs, Jean Houry contestait le terme de dépression, il disait ça ne veut rien dire et tout dire. Mais bon, c'est l'interface. La dépression, c'est l'interface de cette faillie, de cette faille institutionnelle, de cet effet de faille. Alors, on revient à l'humain et on va essayer de développer une analyse institutionnelle généralisée, donc la crise. Comme on pouvait le voir ici en sciences de l'éducation, non seulement elle ne nous a pas beaucoup effrayés, mais j'allais dire, elle fut la matière d'œuvre du travail qui est le nôtre. La crise des banlieues nous a amenés à faire 1 à 2 ans de travail autour de, et à partir de, depuis il y a eu plein de livres et plein d'articles d'écrits, mais on était déjà là parce que le public était avec nous. Clichy, les problèmes, bon c'est vrai qu'on les avait, puisque les masters créés ici, dans le secteur crise, cadre d'intervention en terrain sensible, ont concentré immédiatement le public de la crise, forcément. Et alors, il suffisait de les écouter, d'ouvrir la discussion pour qu'elle soit là présente. Donc la crise, c'est un grand témoin. Et la crise analyse, elle nous guide tout au long de la démarche qui est la nôtre. Peut-être que c'est finalement le destin des sciences de l'éducation de jamais basculer dans les certitudes, de rester en suspens. Et au moment où on va trouver quelque chose qui tiendrait de la certitude, quitter tout de suite le champ, décloisonner. Alors, je voudrais terminer en évoquant ce que j'appellerais une économie psychique de la précarité. Alors c'est vrai que la notion de précarité, c'est encore une de ces notions qui nous est précieuse dans les courants qui sont les nôtres. Ça revient toujours dans les discours de nos maîtres avec un petit thème, Tosquelliège, Jean Houry, etc. Et se tenait à Lyon récemment, à l'université Lyon 1, un grand congrès sur les effets psychosociaux de la mondialisation sur la santé mentale. Autour en particulier de, j'allais dire, de quelqu'un qu'on connaît bien, Jean Furtos, psychiatre. Et je vais vous lire ce qu'il dit de la précarité, lui, cette notion centrale dans nos travaux. C'est vrai que la crise, elle cherche et trouve les limites d'un système. Elle ouvre aussi des lieux, c'est-à-dire qu'il faut recréer d'autres lieux. Un peu à l'image des banlieues ou des... Il y avait un très bel article dans un journal il y a 2 jours sur les environs de la gare de Saint-Denis que connaît bien Alain Vulbeau. Alors bon, ils ont essayé de barrer la gare, de bloquer des rues pour empêcher les SDF, les toxicos de s'installer. Et ils se réinstallent. Mais ils vont trouver, quoi, des cartons, des poubelles, ils bloquent d'autres morceaux de rue, ils se mettent dans des lieux auxquels on n'avait pas pensé, et ils se réinstallent. Mais pourquoi faire? Pour dormir un peu, il faut dormir un peu. Et comme dit l'un d'entre eux, il n'y a que le crack qui permet de dormir par terre. Sans crack, c'est pas possible. Surtout quand il fait froid. Donc ils prennent du crack, ils dorment, puis surtout, ils ne sont pas tout seuls. Ils se recréent quelque chose, 3 mots, un échange. Ils savent à peu près qui ils sont, qui il y a dans la rue, qui est dans la rue d'à côté, qui... Bon, c'est un micro-collectif complètement dépressionnaire, mais c'est un collectif de crise. On y est. Et c'est quelque chose qu'avait bien vu Guattari, dont on va fêter l'an prochain, là on est en train de s'organiser. La mémoire, puisqu'il est mort en 92, à la Borde. Et c'est vrai que l'agencement du micro-social, comme disait Guattari, agencer, vous savez, agencer quoi. Jamais perdre le Nord, jamais désespérer. Les institutions, ça s'agence. Il y en a une qui ne marche plus, on en fait une autre. Ça se crée, les institutions. Les institutions, dès qu'on est deux, on peut en faire une. 3, c'est tout de suite mieux, enfin, etc. Vous voyez. Donc, agencer le micro-social dans l'optique qui était celle de Fernand Houry, je cite les maîtres, ce matin, parce que je suis à Nanterre, j'ai fait à peu près tous les amphis et tous les cours ici, alors bon. C'est vrai que les micro-molécules persistent et signent, et comme disait notre ami Fernand Houry, il avait des expressions lapidaires, survivre, vivre, faire vivre. Si vous êtes dans la survie, j'ai entendu ça au Brésil, dans un coin perdu, il n'y a pas longtemps. Si vous êtes dans la survie, comment voulez-vous vivre? Vous n'avez pas encore eu le temps de vous occuper de vivre. Et puis alors, faire vivre quelqu'un, ou faire vivre d'autres, très difficile. Donc il avait des mots comme ça, lapidaires, survivre, vivre, faire vivre. Faire vivre, d'accord, mais il faut commencer par... Comment Seine-Saint-Denis, quoi. Alors, je vais conclure par notre ami Hurtos. Dans un appel, c'est dans l'UMA du 19 octobre, dans un appel, vous défendez une nouvelle écologie du lien social, c'est-à-dire, alors Hurtos, c'est ce qui permet aux individus de faire lien. La mauvaise écologie, c'est comme le monoxyde de carbone. C'est ce qui empêche de vivre. Ainsi, lorsque des humanitaires interviennent auprès de populations qui viennent de subir une catastrophe, ils ne doivent pas oublier ces liens. Considérer ces populations comme... Je suis pour rien. Hein.
Oui, c'est le micro qui fait ça.
Ah oui, c'est le micro. Considérer ces populations comme des séries d'individus ayant un syndrome post-traumatique, c'est rajouter de la catastrophe à la catastrophe. Un individu n'est jamais un individu isolé, sauf quand il est mort. Et encore, même mort, on pense à lui. Il fait partie de la communauté des vivants et des morts. Lorsqu'un individu est isolé, cela devient pathologique. Cela s'appelle de la phobie sociale. Un individu sans l'autre, ça n'existe pas. C'est aussi cela que l'on peut rappeler. La mondialisation détruit ce lien social, mais aussi ce que vous appelez la saine précarité. Que signifie ce terme, demande-t-on. Le mot précarité n'a pas seulement la signification négative qui lui est ordinairement attachée, synonyme d'incertitude, de risque, de pauvreté. Précarité vient du mot latin précari, qui signifie dépendre de la volonté de l'autre, obtenir par la prière. Une dépendance évidente est celle du bébé. Elle est à respecter au même titre que toutes les situations de maladie, de traumatisme, de fragilité particulière, qui rappelle que nous avons absolument besoin de l'autre, des autres, pour vivre. La perversité du néolibéralisme dans sa forme actuelle, c'est qu'il détruit tout ce qui fait office de solidarité et de respect d'autrui. L'assistana est ainsi perçue comme la perversité absolue. Il faut que chacun paye, que chacun se débrouille par lui-même. C'est pourquoi nous souhaitons la création d'un observatoire international de santé mentale pour que ceux qui sont responsables des attaques contre cette saine précarité soient obligés de répondre de leurs actes. J'en serai. Et je conclurai par ces quelques mots directement issus de 68. On ne tombe pas amoureux d'une courbe de croissance.